Eh bien, notre frère nous parlait de la situation du peuple juif il y a maintenant 2000 ans sous l'Empire romain avec l'influence grecque. Et voilà, je vous salue et je bénis le Seigneur de ce qui nous est rassemblé ce matin pour former un peuple qui lui appartienne au sein d'une société qui a été marqué par 2000 ans de christianisme, mais qui replace aujourd'hui les croyants, le peuple de Dieu, ben finalement dans la même situation que celle des juifs de l'époque, et puis des premiers chrétiens, qui ont affirmé l'obéissance au Seigneur de gloire, qui était révélé dans les Écritures, et qui était adoré au temple, en regard de toutes les idoles et de toutes les autorités qu'il y avait dans ce monde. Pas oublier que les premiers chrétiens ont été mis à mort pour refuser de faire allégeance à César, hein, parce que le Seigneur, le César, c'est celui qui se faisait appeler Seigneur à ce temps-là. Et bien les chrétiens avaient compris que non, ils n'avaient qu'un seul Seigneur, c'était Jésus-Christ. Alors nous sommes replacés aujourd'hui face à un monde qui a, on peut dire, repris le contrôle selon ses propres vues, selon ses propres pensées. Et ce n'est pas pour rien que je donne ce message aujourd'hui, puisque, allons-y, faisons un peu de politique. Il y a une manifestation contre une loi qui est en préparation, et que cette loi fait suite à une autre loi qui est passée il y a maintenant quelques années, dont le président de l'époque, qui était interrogé cette semaine au sujet de la vie de l'autre président qui était décédé, a dit par allusion, mais on comprend bien de quoi il s'agissait, qu'à certains moments, il fallait passer en force, comme j'ai dû passer en force, a-t-il dit, interrogé sur les antennes de France Inter au matin, pour faire passer une certaine loi. Il n'a pas dit laquelle, mais on comprend très vite de quoi il s'agissait. La seule loi qu'il a véritablement imposée à notre société, j'ai dû passer en force. Voilà, parce qu'il fallait quand même se débarrasser de ce reliquat de morale chrétienne et instituée depuis des siècles. Alors, c'est dans ce contexte que nous vivons maintenant. Une société qui a repris le dessus par rapport à ce qui était transmis par les croyants, les prophètes et les apôtres de Jésus-Christ depuis des siècles. Alors, quel est le comportement du croyant dans ce siècle, hein? Quel doit être son comportement? Je l'ai résumé en deux mots: fermeté et douceur. La position profonde du croyant face à ce que le monde lui propose et lui offre aujourd'hui. Il faut rappeler quand même toujours qu'un principe spirituel mauvais gouverne le monde. Jésus dit « Le prince du monde vient et il n'a rien en moi » Jean 14, 30. Le monde gît sous la puissance du malin. C'est quand même ça qui est fondamental à comprendre. Le monde est dominé par une puissance ennemie qui est opposée, contraire à Dieu. Alors que ce soit au plan collectif ou au plan privé, le diable est à l'assaut. Et voilà, citons seulement l'enseignement de Pierre dans 1 Pierre 5, 8 à 9. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » résistez-lui avec une foi ferme. La raison de la résistance, c'est la foi que nous avons en notre Seigneur. Et je vous le dis à vous, si vous devez résister à quoi que ce soit, ce ne peut être que dans la foi et par la foi et à cause de la foi. La foi nous permet de subsister devant Dieu sur le plan de la justification, de la sanctification. Nous avons à tenir ferme en nous appuyant sur la doctrine de Christ et des apôtres, de ne pas laisser d'autres doctrines venir nous troubler, rester ferme dans la foi en la grâce de Dieu. Ça, c'est un plan spirituel. Mais la foi se traduit également dans un mode de vie, une conduite que nous avons sous le regard de Dieu. La parole de Dieu est notre guide pour notre marche quotidienne. Le monde qui est sans Dieu, sous la conduite du diable, ne comprend pas la vie morale selon Dieu, et il établit donc ses propres mœurs depuis toujours, en fait. Depuis les origines, ce sont les mêmes mœurs qui sont dans le monde. Et à l'occasion, dans notre démocratie, ben, il traduit cela en loi. Mais c'est pas essentiellement les lois qui voilà, elles ne sont que le reflet d'un état d'esprit, d'une mentalité païenne, tout simplement. Et cela ne doit affecter en aucune manière la vie morale du converti. Je vous prends encore dans Pierre, hein, au chapitre 4, versets 1 à 5. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Voilà donc... C'est assez, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens. Maintenant, vous êtes avec les saints, vous vivez avec le saint, et donc votre vie morale est associée à celle de celui qui est juste. Elle est marquée par l'esprit de justice et de sainteté. Or, il n'est pas si facile de rester ferme. Parce que, tout simplement, l'âme bascule facilement du côté de ceux qui l'emportent, du côté des gagnants, du côté de ceux qui ont triomphé. Il y a comme un calcul secret d'intérêt qui se met en place dans le cœur de l'homme. Le raisonnement change. Et, selon une expression commune, l'homme retourne sa veste. Les convictions initiales se sont soudain évanouies. Bon, elles n'étaient peut-être pas très profondes, mais il y a une véritable influence qui se met en place lorsque quelqu'un donc, triomphe. Alors parfois, le processus est plus lent, plus subtil. On peut dire la falaise est grignotée jour après jour par les assauts de la vague jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle s'effondre. C'est un travail de longue haleine que le diable fait pour miner la résistance. Mais voilà, le fidèle en Jésus-Christ, qui est exposé à tous ces changements d'opinion par le doute, que Satan fait peser sur lui est appelé à tenir ferme. Le doute, c'est l'arme vraiment du diable. Et l'apôtre Jacques nous dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. De sorte que l'on ne sache plus finalement là où est le fondement, là où est la vérité. Et donc, inversement, eh bien, si nous voulons être en paix, nous devons adopter une attitude de fermeté, de conviction profonde qui ne change pas au gré des circonstances, au gré des lois humaines, au gré de ceux qui sont en place. Le chrétien a sa foi fondée dans son Seigneur. Et je vais vous lire ce chapitre merveilleux du prophète Ésaïe, chapitre 26. J'irai seulement jusqu'au verset 13, mais il y a déjà tellement de choses magnifiques dans ces versets. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Tu es juste, toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante et ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Oui, la ville forte face à la ville superbe. Notre place forte, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous avons le salut pour muraille et pour rempart. Et si nous restons fermes dans notre salut que nous avons en Jésus-Christ, nous sommes à l'abri jusqu'à ce que Dieu fasse venir son jugement sur ceux qui s'élèvent contre lui. Et donc, Jésus nous dirige dans un caractère de fermeté, dans une force pour ne pas être emporté par le courant d'iniquité, mais il nous le fait avec son caractère à lui, avec le caractère du roi débonnaire. C'est pourquoi je veux encore vous rappeler la troisième béatitude. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Les doux ou les débonnaires. Le terme grec, donc selon le commentaire de la Nouvelle Bible Second, évoque l'humilité, la modestie, la considération pour autrui. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. comme avec les autres béatitudes, il est question d'un état avéré de douceur, pas seulement de quelques manifestations de douceur. Il y a une invitation à acquérir par la foi, parce que rien ne se fait en dehors de la foi. Donc acquérir par la foi, donc recevoir de Dieu un caractère de douceur, ce qui est l'abandon de la vindicte, de l'énervement, de la revendication. Si l'apôtre peut nous exhorter dans Éphésiens, hein, chapitre donc 4, verset 31 de l'Épître aux Éphésiens, je prends cela, que toute, il nous dit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous ne sommes pas appelés à entrer dans la clameur, mais être dans le calme, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, non pas comme ceux qui ont réussi à exercer le contrôle sur eux-mêmes, qui sont des gens qui se maîtrisent, qui maîtrisent leurs émotions, etc. Tout ça, ça reste quand même du domaine, on peut dire, humain. Non, c'est vraiment recevoir par la foi l'action de l'Esprit de Dieu en nous, être disponible à son esprit de grâce. Parce que le caractère de douceur, c'est celui de Jésus-Christ. Hein, venez à moi, tout ce qui vous fatiguez, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Vous trouverez le repos de vos âmes, car je suis doux et humble de cœur, dit le Seigneur. Le caractère spirituel, vraiment, de Jésus, c'est celui de la douceur. Il vient nous apporter le repos. Il y a vraiment une compréhension spirituelle de ces paroles, puisque lorsque l'on peine sous la loi du péché et que l'on cherche le repos en se plaçant sous le joug de la loi, bien, cela s'avère pénible. L'apôtre Pierre le rappelle. C'est pénible d'être sous le joug de la loi. Mais le joug du Seigneur est doux et léger. Sa grâce reçue par la foi nous libère de la fatigue d'un combat contre nous-mêmes et contre le monde. Donc en Jésus-Christ, nous avons le repos de l'âme, nous avons la paix, nous avons l'esprit de grâce. Mais donc il y a aussi une application sociale, parce que notre société est ultra fatigante, du moins pour ceux qui veulent y être reconnus, qui veulent y avoir une place honorable, tenir un certain rang. Il y a une pression constante, en fait, qui s'exerce dans notre société, qui est à la recherche de la performance. En réalité, ces derniers temps, je réalisais à quel point peut-être le mot-clé de notre temps, c'est performance. Le monde est dans la performance. Et ça nous fait comprendre le fonctionnement de notre société actuelle. Et je dirais même des dérives qu'il y a. Parce que ce n'est pas tant, je crois, des droits que l'on ouvre aux uns et aux autres. Tout cela, j'ai l'impression que c'est un peu quand même des diversions. Mais on cherche plutôt à élargir le champ des possibles, l'exploration hors limite, et par là, le contrôle du monde. C'est une libération qui est au service d'un contrôle. Ce que les hommes veulent, c'est contrôler les choses, contrôler le monde, contrôler la vie. Ils veulent pouvoir, être ceux qui, les premiers, et c'est pas pour rien que quand il y a une loi qui apparaît dans certains pays, les autres nations se presse de s'aligner parce que ça va donner une avance technologique et puis ça va donner une primauté de cette nation-là sur les autres parce qu'elle a été plus loin dans le progrès et qu'elle pourra bien sûr en gagner des profits, etc., etc. Le monde de la performance qui, d'un autre côté, épuise des masses de personnes qui n'en peuvent plus, qui parfois se suicident, etc., parce qu'elles sont sous la pression insupportable, justement, de la nécessité d'être dans le rendement et la performance. Alors, mieux vaut vivre dans la douceur de Jésus, en cherchant son royaume de justice, plutôt que de vouloir faire sa place en vue dans la société. Jésus est doux, il nous demande d'être doux, grâce à la paix du cœur qu'il nous apporte. Et puis, en recherchant les lieux et les compagnies favorables à cette incrustation de la douceur en nous. Les exhortations sont nombreuses dans le Nouveau Testament. Et alors, il faut là considérer la promesse qui est en face de cette acquisition de la douceur. Puisque heureux les doux, les débonnaires, car ils hériteront la terre. La plus proche parole qui ressemble à celle de Jésus, c'est dans le psaume 37, verset 11. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Voilà la promesse qui est faite à ceux qui sont doux avec le Seigneur. Avoir la terre ou le pays ou une contrée en propriété et y vivre sans être troublé par quiconque. Ils hériteront la terre, non pas pour y reproduire le monde de corruption et de violence qui existe actuellement, mais pour y vivre dans la paix et la justice de Dieu. Dans le Lévitique, il y a déjà des promesses qui étaient, une promesse qui était faite, chapitre 26, verset 6. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Voilà ce qui est promis au peuple qui aime le Seigneur, qui le glorifie, qui cherche à lui obéir. Eh bien, c'est la même promesse que le Seigneur fait à ceux qui sont doux. Il leur promet le pays pour une vie dans la paix, le partage de la terre avec d'autres esprits doux sous la conduite du Seigneur. La terre appartient au Seigneur, à lui bien sûr, et la force, et il donne à qui il veut. Et quand il donne, alors voilà, tout est bonté, tout est grâce, tout est justice. Lorsque nous voulons prendre les choses, cela suppose toutes sortes de difficultés, de complications, mais lorsque nous les recevons de notre Seigneur de grâce, eh bien, tout est parfait. Là, il y a un véritable bonheur. Donc le Seigneur nous invite à garder et cultiver ce caractère de douceur, malgré la fermeté que nous devons avoir face à un monde qui ne respecte en aucune manière les lois du Seigneur et face parfois concrètement à des personnes que nous avons en face de nous et qui voudraient nous imposer leur vue à ce sujet. Fermeté mais douceur en Jésus-Christ, c'est le programme de notre Seigneur. Amen.